Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement hein, pour cette dernière présentation dans la librairie Cartala. Je crois que c'est la première fois cette saison, hein, depuis que je suis arrivée, qu'on présente un ouvrage de la collection Lettres du Sud. Une collection dirigée par la brillante Elara Berto, qui n'a pas pu venir ce soir, parce que je pense qu'elle enseigne à Rome, si j'ai bien compris. Elle est chargée de recherche au CNRS. Mais je voulais voilà, souhaiter, moi, je voulais en tout cas saluer son travail à Elara Berto pour cette collection de Lettres du Sud, et une collection qu'elle a rendue sexy, il faut le dire, hein, voilà, et avec des auteurs de qualité, et un beau travail notamment sur les couvertures, vous le verrez un peu sur les dernières éditions. C'est notamment le cas avec ce livre qu'on va présenter ce soir, Les littératures de la traversée. Alors la couverture, il s'agit d'une œuvre de l'artiste peintre Franck Lundangui, d'origine angolaise. Voilà, c'est une œuvre aquarelle et encre, si je me souviens bien. Alors voilà, donc nous sommes réunis hein, pour la présentation de ce livre rédigé par Désirée Niella. Avant de parler de votre ouvrage Désirée, on va vous présenter quand même, même si on ne le fait plus, mais je vais vous le faire quand même. Vous êtes professeur titulaire au département d'études françaises de l'Université de Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse au Canada. Vous êtes docteur en stylistique de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Alors, vos recherches portent notamment sur les littératures francophones ainsi que sur les littératures populaires, c'est comme le roman policier, le roman sentimental. D'ailleurs, vous avez publié La filière noire, dynamique du polar Made in Africa, c'était en 2015 chez Honoré Champion dans la collection Francophonie. Auparavant, en 2009, vous avez publié Ligne de front, le roman de guerre dans la littérature africaine, publié aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Espace littéraire. Et donc, votre dernier ouvrage s'intitule Les littératures de la traversée et c'est paru aux excellentes éditions Cartala en 2021. Je vais faire un tropisme. Je ne sais pas comment on dit ça. Bref, votre livre est une traversée, Désiré. Un voyage dans les œuvres de trois écrivains majeurs, Yambo Wologem, Kossi Efoui et Dany Laferrière. Votre analyse part d'une hypothèse sur ces littératures dites parfois minoritaires, périphériques, issus des pays du Sud, en langue française, littérature francophone. D'emblée, alors vous rejetez le concept de littérature monde, vous parlez de fumisterie, de tentative de coup d'État littéraire sans fondement. Alors pour autant, l'expression littérature de l'exiguïté, proposée par François Paré, vous semble elle aussi trop exiguë, oserais-je, dans le sens où ce concept s'attarde seulement sur les conditions de production, de diffusion et de distribution des littératures francophones, et finalement exclut la manière dont les écrivains francophones, notamment africains, dépassent ces limites et ces entraves. Donc intervient alors votre concept, celui des littératures de la traversée. On entend dans traverser le mouvement, le passage, mais aussi la transgression, la transmission, l'affiliation. Il s'agit pour les trois écrivains cités, et sûrement hein, pour beaucoup d'autres, notamment les écrivains africains en langue française, de mettre en place des stratégies, en fait, selon vous, des stratégies pour sortir des carcans. Alors, celui de l'exotisme assigné, celui du marché éditorial parisianiste, celui aussi de la nationalité, pour atteindre l'universalité. Voilà, pour mon introduction, j'avais une première question un peu bateau pour introduire le sujet. Finalement, quand vous parlez de littérature de la traversée, est-ce qu'on peut dire que c'est cette recherche d'universel qui anime ces littératures et ces écrivains que j'ai cités précédemment?
Merci pour la présentation et merci pour l'introduction. Je vois que enfin, je m'aperçois que vous m'avez vraiment lu avec beaucoup de rigueur et beaucoup de finesse. Donc, effectivement, oui. Alors, on peut dire que c'est effectivement c'est une quête d'universel. Alors, je vais peut-être reprendre le propos de Dany Laferrière qui dit, et je le cite de mémoire, je suis trop ambitieux pour appartenir à un seul pays, donc je suis universel. Alors, donc, qu'il s'agisse de Dany Laferrière, dont que je viens de citer de mémoire, ou de Yambo Wologem, qui a été, je pense, le premier avant lui et Kossi Efoui, il y a cette ambition, cette quête, justement, d'universalité. Et d'ailleurs, en fait, un des paradoxes des littératures du Sud, et des littératures africaines en particulier, et francophones, si on se limite à ces littératures-là, c'est qu'elles, en fait, elles sont ancrées au cœur du monde. C'est-à-dire que leur forte extranéité fait en sorte que le fait, la quête d'universalité est en fait une espèce de, pour parler comme Thiernu Mononembo, c'est presque un déterminisme. Et donc, ils sont un peu
Obligé.
contraints d'être universels parce que, justement, ils évoluent dans un environnement, dans un écosystème. Où ils sont en fait dépendants en fait de structures d'une infrastructure qui est située en fait ailleurs. Et donc ils sont comme un peu mis à demeure d'être en quête d'universalité. Donc ils sont un peu comme obligés. Alors c'est vrai que tous ne revendiquent pas souvent cette posture. Il y a des gens comme Amadou Kourouma qui, eux, justement, se situent dans une posture inverse, une posture que j'appellerais une posture locale. Alors, évidemment, je développe tous ces concepts à travers ce que j'appelle la mise à distance. Alors, donc, plus un auteur va jouer de la mise à distance, plus il va se situer dans un registre universalisant, et moins il en joue, plus il sera dans un registre particularisant. Alors donc, on a donc ces deux postures-là qui font que soit, alors pour accéder au marché mondial du livre, parce que le concept de littérature de la traversée ne se comprend mieux que par rapport à la mondialisation de la littérature. Alors donc, et par rapport au fait que les littératures sont en relation, et ce sont des dynamiques relationnelles de satellisation, de domination, et donc et à travers le concept de traversée, j'essaie de voir justement comment est-ce que, à travers des stratégies de ruse, de passage, de circulation, comment est-ce que justement, malgré les exiguïtés, pour parler comme François Barré, malgré les exiguïtés institutionnelles qu'il y a, mais comment ces littératures parviennent malgré tout à exister, et à éclairer le monde? Parce que justement, là où je peux donner un mérite à la littérature monde, parce que vous m'avez fait passer pour quelqu'un de très méchant vis-à-vis de la
Oh, un peu
littérature.
dur avec mon livre quand même, hein, fumisterie, moi j'avoue.
Là où je
Un
leur donne
crédit.
crédit, c'est que ils ont mis à distance effectivement une conception de la francophonie qui est tourner autour de la France comme dépositaire des lumières qui devraient irradier et éclairer le monde. Et donc, il n'y a pas que la France qui soit dépositaire, justement, de ces lumières-là. Et donc, là, sur ce plan-là, cette mise à distance de cette francophonie-là, oui, d'accord, je suis d'accord avec eux. Mais là où je suis effectivement fâché contre eux, c'est que, alors, on fait la critique de cette francophonie-là, on proclame la naissance d'une littérature monde sans au préalable faire une remise en question du fonctionnement de l'infrastructure éditoriale française, par exemple, qui justement accueille, héberge et publie et diffuse ces littératures. On ne peut pas proclamer la naissance d'une littérature sans en assurer la fondation, sans parler de comment est-ce qu'on va maîtriser l'appareil infrastructurel qui, justement, va assurer les fondations de cette littérature. Donc, c'est qui fait que c'est pour ça que je suis effectivement un peu très en
Fâché
colère
concernant.
avec le concept de littérature monde. Donc, en fait, il y a effectivement cette espèce de quête d'universalité, de l'universel, qui anime effectivement à la fois Yambo Wologem, à la fois Kossi Efui et
Et
Daniela
Nina
Ferrière,
Ferrer.
que j'ai pris en fait comme trois modèles, trois guides. Justement, parce que je parle d'autres écrivains aussi, mais je les ai pris, ces trois-là, justement, comme poisson pilote, pour justement illustrer cette histoire de
Est-ce qu'il
littérature
y
de la
a un guide
traversée.
géographique? Moi, je vois Daniela Ferrière plutôt sur le continent américain. J'aurais placé Wologem en Afrique. Alors, Kossi Efui, il est togolais. Voilà, j'aime bien le considérer comme un écrivain parisien, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'il y a une considération géographique? Non, je ne sais pas de faire une. Pas
Ben,
forcément. Voilà, non, c'était une.
ouais, justement, enfin, bon, évidemment, la notion de sud, alors la collection, c'est
C'est ça,
l'être du sud, la notion
oui.
du sud, le sud
Et très variable, oui.
est justement, elle est assez complexe, et puis je laisse cette question-là aux géographes. Ils peuvent bien nous parler des complexités qu'il y a par rapport aux différents suds. Mais en fait, j'ai voulu effectivement prendre. Alors, quelqu'un qui vient des Caraïbes et qui se considère comme effectivement un écrivain américain, parce que Daniela Ferrière dit qu'il est un écrivain américain, mais qui écrit en français. Alors,
Japonais.
et en plus, il dit qu'il est un écrivain
Japonais.
japonais. Et d'ailleurs, ça m'a permis de développer un concept qui s'appelle le japonais invisible. Alors, peut-être qu'on pourra en parler.
Tout à
Alors,
fait.
donc, la question du japonais invisible. Alors, et prendre Daniela Ferrière. Prendre Kossi Efouy, prendre Yambo Wologem. Et Yambo Wologem, je le prends en premier, je le mets en premier parce
Au-dessus, un peu, je
exactement
dirais,
parce que pour
on va parler le père de tous ces enfants de la
exact
postcolonie, le père
exactement
silencieux de
exactement
tous ces enfants de la postcolonie. Donc vous l'avez dit, finalement, cette littérature africaine est marquée du sceau de l'extranéité, dans le sens où les œuvres, très commercialement, hein, voilà, sont publiées, distribuées, diffusées, bon, j'allais dire à Paris, en France, globalement. Un peu ça. Et donc, les littératures de la traversée sont aussi des littératures de la modernité postcoloniale. Et je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, l'un des pères silencieux, hein, de cette littérature, des enfants de la postcolonie, pourrait être sans nul doute Yambo Wologem, premier Africain, je pense, si je ne dis pas de bêtises, à recevoir le prix Renaudot en 1968 pour Le Devoir de violence. Il a été accusé par la suite de plagiat. Il s'est ensuite réfugié, hein, dans sa ville natale de Sévaré au Mali jusqu'à sa mort en 2017. Alors, pour le coup, hein, Yambo Wologem a multiplié les ruses, justement, vous le dites, hein, pour rester un Africain, un écrivain, oh là là, un écrivain blanc et aller à la conquête du lectorat. Dans votre livre, hein, en termes d'études, hein, vous parlez principalement de ses œuvres Les Mille et une Bible du sexe, paru en 1969 sous le pseudonyme de Dutot Rodolphe, ainsi que de deux romans, Les Moissons de l'amour, paru en 69, et Le Secret des Orchidées, paru en 70, qui est paru, sous le pseudonyme de Nelly Brigitta.
C'est ça.
Alors, à l'inverse, hein, de l'exotisme et de l'authenticité, alors j'allais dire au sens mobutiste, parce qu'il y a comme ça, authenticité africaine, quoi. Pardon. Attendu, Yambo Wologem adopte une posture différente, vous dites, hein, pour se situer au-delà de la ligne de couleur. Quelles sont concrètement les stratégies adoptées par Yambo pour rester blanc? J'imagine que le pseudonyme en fait partie.
Effectivement, le pseudonyme en fait partie. Alors, et le choix du pseudonyme va avec le choix en fait des genres populaires. On parlait de genres populaires tout à l'heure. Ça va avec le choix des genres populaires qu'il adopte parce que, alors, on parle toujours de Yambo Wologem à partir du Devoir de violence. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il avait déjà publié deux romans avant. Deux romans qu'on pourrait qualifier de romans d'amour, mais qui sont en fait matinés à la sauce polar. Donc, il y a une enquête, une intrigue, mais c'est des romans d'amour. Alors, donc, il y a effectivement une quête amoureuse, un conflit entre des personnages qui se battent pour le cœur d'une femme. Et puis, alors, et le pseudonyme Nelly Brigitta, effectivement, en fait partie. Alors, donc, il. Alors, et ce choix du pseudonyme est en lien avec le genre. Donc, parce que quand on écrit des romans d'amour, en fait, le roman d'amour postule une espèce de fantasme auprès de ses lecteurs. De lectrices, quoi, parce que c'est majoritairement des lectrices qui lisent il y a aussi des lecteurs là, mais majoritairement c'est des lectrices qui lisent des romans d'amour. Et évidemment, il faut que l'auteur justement soit en fait un auteur féminin parce qu'il y a un souci d'identification de la lectrice. Et c'est pour ça qu'il choisit effectivement un pseudonyme avec deux prénoms, enfin un pseudonyme à double consonance prénominale, hein, donc Nelly et puis Brigitta. Et donc il fait le choix de genres populaires. Et les genres populaires, en fait, sont des genres qui sont des genres marqués. Alors, que l'on soit africain, que l'on soit scandinave ou que l'on soit letton,
Les temps,
voilà, quand on écrit un roman policier, ben on suit une recette. Il y a une intrigue, il y a un crime, un criminel, une victime et un enquêteur. Alors, ça peut, vous pouvez faire comme Moussa Konaté, balader votre lecteur à Nagadi chez les Keïta ou chez les Dogons ou chez les Bozos. Ben, vous allez respecter la recette. Alors, quand vous écrivez un roman d'amour, c'est la même chose. Il y a des ingrédients que vous devez respecter. Alors, donc, effectivement, en faisant le choix de ces genres populaires, donc c'est des choix qui l'amènent d'abord à respecter un cadre. Et ce qu'il fait d'intéressant, parce qu'il ne fait pas comme Moussa Konaté qui nous balade au Mali, lui, il nous balade effectivement ici. Alors, parce que dans ces romans, les deux romans d'amour dont on a parlé là, c'est des romans effectivement qui se passent en Occident avec des personnages occidentaux. Il n'y a pas d'Africain dedans, il n'y a personne de. Donc, on ne peut même pas imaginer que ce soit un Africain qui ait écrit ça. Alors, donc, ça c'est. Et donc, il reste hein, dans cette logique effectivement du genre qui l'amène effectivement à sortir, comme dirait Sarah Burnotsky, de la ligne de couleur. Alors, donc, il y a d'abord cette stratégie-là. Et d'ailleurs, dans sa lettre, dans son ouvrage Lettre à la France nègre, où il a une lettre justement aux piscopi nègres d'écrivains célèbres, donc il leur donne la recette. Il leur dit, voilà, si vous voulez être un écrivain célèbre ici, alors écrivez soit des romans policiers, soit des romans d'amour, mettez-y du sexe, du sang et un peu et de la violence, ben, vous allez être populaire, vous allez avoir la série noire en un volume. Donc, et d'ailleurs, il donne des exemples. Quand vous lisez la lettre, en fait, il fait lui-même l'exercice. Et effectivement, on peut écrire autant de livres qu'on veut en s'inspirant de sa recette. Et donc, justement, et c'est cette volonté-là d'être blanc, et cette volonté, cette quête, ce souci du style. Justement, qui fait de Yambo Wologem, effectivement, c'est un écrivain qui a toujours voulu sortir en fait du ghetto dans lequel on a voulu le maintenir.
D'ailleurs, vous dites être blanc, ce n'est pas être blanc, c'est plutôt être sans étiquette, finalement. Voilà,
Exactement.
c'est qu'on parle principalement. Alors, vous avez évoqué cette question des genres, on a évoqué la question des stratégies, justement, pour sortir de cet enfermement d'écrivain francophone. Africain, voilà, et du coup, c'est cette contrainte de devoir se justifier pourquoi on est universel tout le temps. Et donc, vous l'avez dit, hein, Wologem manie aussi bien le roman policier que le roman sentimental. Et finalement, cette quête, ces stratégies, elles n'ont qu'un destinataire. Ce n'est pas les éditeurs, c'est le lecteur. Est-ce que finalement, ces genres populaires lui permettent à Yambo Wologem, dans sa stratégie justement d'être un écrivain blanc, en reprenant ces genres très caractérisés, vous avez dit, hein, très structurés,
Formaté, ouais.
formatés, et c'est ce qui lui permet d'aller ch chercher le lecteur occidental?
Oui, effectivement, et le lecteur est central. La question du lectorat est centrale. D'ailleurs, elle est centrale en toute littérature. Enfin, quand on parle de littérature, on ne peut pas parler de littérature sans lecteur. Bon, vous avez beau écrire de très très beaux romans, si personne ne les lit, enfin, c'est comme mon directeur de thèse, Georges Molinier, paix à son âme, il est décédé maintenant, qui disait la littérature n'existe qu'à réception. Alors, donc, effectivement, il faut qu'il y ait des lecteurs. Alors, et le lecteur, et la question du lectorat est centrale, notamment pour les littératures francophones du Sud, les littératures africaines en particulier. Et toute la critique africaniste, et Boniface en a fait partie, toute la recherche sur la critique de la critique africaniste a consisté à déplorer le fait qu'il y a très peu de lecteurs locaux pour donc il y a un déplacement du lectorat, une déterritorialisation du lectorat qui se retrouve au nord. Et moi, je pars du principe qu'on ne devrait pas être dans la déploration dans cette affaire. Et donc, on devrait simplement être dans le constat. Alors, donc, si on est à demeure d'être universel, donc on va aller recruter le lecteur là où il se trouve. Alors, on va aller le recruter au nord. Donc, et donc, on va justement, on va aller le chercher là où il est. Alors, parce que l'essentiel, c'est qu'on ait des lecteurs. Et je dis justement que. Et je postule que toute littérature, justement, puisque souvent on assigne la transnationalité aux littératures par rapport à la langue, on dit, bon, on parle de littérature francophone, on parle de littérature lusophone. Mais moi, je pense que le caractère transnational d'une littérature, c'est d'abord le lecteur. C'est le lecteur qui décide du caractère transnational d'une littérature. Donc, peu importe le statut d'une littérature, qu'elle soit minoritaire ou pas, si elle a des lecteurs, et si ces lecteurs se retrouvent ailleurs, cette littérature est transnationale. Et donc, la question du lectorat est fondamentale. Et c'est pour cela que Dany Laferrière, justement, dit que c'est le lecteur qui décide de la nationalité de l'écrivain. Et que, et je le cite encore de mémoire, il dit que quand un japonais me lit, je deviens un écrivain japonais. Et donc, l'auteur prend la nationalité de son lecteur. Et c'est pour cela que je parle du concept du japonais invisible. Donc, justement, pour revenir à la question d'universalité. Parce que pour moi, il se cache en tout auteur un japonais invisible. Donc, et pour moi, le concept de japonais invisible, c'est cette métaphore, justement, du caractère universel de tout auteur, fût-il un auteur qui vient de la périphérie. Dès lors qu'il a des lecteurs, justement, il peut décider de prendre la nationalité de ses lecteurs. Un peu comme Dany Laferrière qui proclame qu'il est un écrivain japonais.
Je suis un écrivain japonais. On va y revenir tout à l'heure. Alors, justement, alors que Yambo Wologame veut être un écrivain blanc, sans étiquette, Kosi Efui, lui, réfute l'existence d'une littérature africaine. Il dit « la littérature africaine n'existe pas ». Il dit « je ne suis pas un écrivain africain ». Comment se traduit-il dans son œuvre? Vous parlez un peu de dépouillement et de profondeur.
Oui, alors donc, avec Kosi Efui, c'est... Alors, Il a fait un peu... Ses propos ont suscité la controverse quand il a dit que la littérature africaine n'existe pas. Et je suis assez d'accord avec lui en disant qu'effectivement, il dit que ce n'est pas l'africanité de la littérature africaine qui donne de la valeur à la littérature africaine. Donc c'est la part qui déborde. Alors donc, la littérature, c'est dans le débordement de cette part identitaire. Et effectivement, Kosi Efui déconstruit, c'est un écrivain que je qualifierais d'écrivain de la déconstruction. Alors, il déconstruit effectivement cette fiction qu'est l'Afrique. Parce que pour lui, l'Afrique est une fiction, c'est-à-dire une construction qui a été faite par d'autres. Alors, donc, il y a l'autre qui a regardé, c'est une hétéroscopie, donc qui a regardé l'Afrique, et qui, justement, a... son image et sa perception de l'Afrique. Et donc, lui, il déconstruit cela. Et il le fait par... Et Kosi Efui est un des écrivains africains qui, je pense, a le souci du mot juste. Il cherche toujours le mot juste. Lui aussi, c'est un peu comme Wologame, il est toujours dans le style. Il est vraiment dans le style. Et d'ailleurs, il dit que lui, il fait un travail de corps à corps avec la langue, justement parce qu'il est dans la recherche du mot juste, dans le dépouillement. Et que, évidemment, il prend l'Afrique comme cadre, comme décor, mais les thématiques qu'il aborde sont des thématiques éminemment universelles. Quand il parle de fratricide par rapport à la guerre, par rapport au génocide rwandais.
Solo d'un revenant,
Revenant. Effectivement. Alors, donc, en fait, il s'inspire. Alors, du fratricide biblique entre deux frères, Caïn et Abel. Et donc, il prend l'Afrique comme cadre, mais ce n'est pas le cadre qui est important. Alors, comme dirait Wologame, ce n'est pas le dehors qui importe. Hein, ce n'est pas le dehors qu'on regarde. C'est du dehors qu'on doit... Alors, donc, c'est ça qui est important. Et c'est ça que Kosi Efui essaie de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le dehors qui importe, mais c'est du dehors qu'il regarde. Et c'est ce souci du style et puis Kosi Efui est dans ce que j'appelle une géographie de l'affiliation. Affiliation, c'est-à-dire l'apostrophe A, et non dans l'affiliation. Il rejette beaucoup l'affiliation. Il déconstruit beaucoup les relations qui sont identitaires et
biologiques.
Biologiques.
Voilà. Parce qu'il est quand même dans une filiation. Les cérémonies.
La fabrique de cérémonies.
La fabrique des cérémonies s'inscrit dans la thématique du retour, notamment au cahier du retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc il y a une sorte de affiliation, parce que vous dites affiliation, il y a une sorte quand même de filiation littéraire. On pourra parler de comment on vient de la lecture à l'écriture, mais il s'inscrit quand même là-dedans.
Alors, effectivement, voilà. dans ce roman en particulier, son personnage est plus à l'aise dans une filiation littéraire.
Voilà, ouais.
Alors, parce qu'il est très proche. Ce roman est très. On peut le rapprocher du Cahier d'un retour au pays natal de Césaire. On peut le rapprocher aussi de L'étranger de Camus.
Oui.
Parce que c'est à la faveur de la mère du héros
que.
Et d'ailleurs, le roman commence un peu. Pastiche un peu le début de L'étranger de Camus. Alors, et donc, mais sauf que le personnage, son héros en question, a du mal avec sa filiation biologique. Alors, donc, effectivement, il est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la filiation. Et donc, Cossy et Fouy privilégient, lui, les liens, effectivement, de l'esprit au lien de la biologie. Alors, donc en cela, il est aussi quelqu'un qui favorise effectivement cette espèce de géographie aérienne, cette espèce de géographie de l'esprit, et qui montre que, effectivement, et quand il dit que la littérature africaine n'existe pas, et qu'il n'est pas un écrivain africain, c'est parce que, justement, il veut, un peu comme Wologhem, il veut rester blanc. C'est-à-dire, il veut être un écrivain tout court. C'est pas blanc l'épiderme, non, mais c'est qu'il veut être un écrivain tout court. Il ne veut pas être considéré comme un écrivain africain, ce qui est un peu réducteur. Alors, donc, il se considère comme un écrivain tout court, et effectivement, cette espèce d'utopie de la filiation, de la mise à distance de l'Afrique, hein, comme continent qui est construit par d'autres, justement, il réussit à faire cela.
Vous avez anticipé ma prochaine question. Justement, dans votre ouvrage, il est surtout question pour ces trois écrivains de mise à distance, Cossy et Fouy. Donc j'ai bien compris, hein, parce que j'ai marqué Cossy et Fouy se met à distance de cette fiction qu'est l'Afrique, fiction imaginée par d'autres. Yambo Wologhem se met à distance finalement la littérature en la désacralisant avec l'ironie, le style. Pour Dany Laferrière, il s'agit plutôt de mettre à distance la communauté pour mieux s'affirmer en tant qu'individu. Cette mise à distance consiste-t-elle finalement en déplacement du regard? Vous avez cité le terme tout à l'heure. Est-ce que finalement on peut traduire cette trajectoire des littératures d'un regard qui passe de l'hétéroscopie, c'est le regard de l'étranger, ben, d'ailleurs, à une autoscopie, à celui qui se regarde? C'est un peu ça, le déplacement du regard?
Effectivement, c'est un peu cela, oui. Effectivement, cette trajectoire qui va de l'hétéroscopie à l'autoscopie. Alors, donc, et c'est Yambo Wologhem qui inaugure cela. C'est pour ça que je le mets au-dessus des autres. Alors, et effectivement, il faut passer d'une hétéroscopie, alors donc regarder l'autre. Évidemment, ça a été ça. Ça a été un peu beaucoup la négritude. La négritude avec ses pères fondateurs, Césaire, Senghor, Damas, ils ont favorisé effectivement cette hétéroscopie parce que, effectivement, quand on se souvient de la préface, la célèbre préface de Jean-Paul Sartre, qui disait que le blanc a bénéficié de 3000 ans du privilège du regard et qu'il accepte de se faire regarder en retour. Alors, bon, je ne peux pas citer de mémoire, mais c'est à peu près ça qu'il dit. Et donc, avec la négritude, on était dans l'hétéroscopie. Donc, il fallait aussi regarder l'autre. Il fallait regarder celui qui nous a toujours regardé. Alors, si on prend un roman comme Une vie de boy de Ferdinand Oyono, alors c'est exact. On est vraiment dans l'hétéroscopie. Donc, on a un boy qui est introduit dans l'intimité de l'administrateur colonial blanc et qui regarde et qui raconte, en fait, ce qu'il découvre. Et il découvre que ce qu'il découvre est vraiment, est déconstruit toute la mythologie qu'on a de l'administrateur colonial. Alors, il découvre que la femme de l'administrateur colonial peut tromper son mari, qu'ils ont des problèmes. Enfin, il découvre que c'est... Alors, donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'hétéroscopie. Alors, donc, on regarde l'autre. Mais Wologhem, justement, lui... Justement, quand il critique la négritude, il dit justement que la négritude, en fait, renforce cette espèce de soumission, cette espèce d'idéologie coloniale où on se définit pas par rapport à soi-même, mais toujours par rapport à l'autre. Alors, et donc, il faut d'abord qu'on passe de cette hétéroscopie à une autoscopie, c'est-à-dire qu'on puisse se regarder soi-même. Et quand on se regarde soi-même, évidemment, on peut découvrir des choses qui sont dérangeantes. on peut découvrir du linge sale. Alors, et c'est pour ça que justement, je dis, je postule que Yambo Wologem est le père du roman policier. Parce que dans le roman policier, alors le roman policier met l'accent sur des dysfonctionnements, sur des choses qui ne marchent pas. Et il a été le premier à écrire des romans où l'Africain se regarde. Et je trouve que c'est très important, effectivement, de passer de cette hétéroscopie à une autoscopie qui est lucide et sans complaisance. Et c'est à partir de là que l'on peut avoir la légitimité de regarder l'autre, justement, parce qu'on a pu se regarder soi-même sans complaisance et avec beaucoup de lucidité. Et donc, justement, il faut passer de cette hétéroscopie à cette autoscopie, qui est nécessairement salutaire, justement. Et Yambo Wologem est celui, justement, qui invite, justement, l'Africain à se regarder, à avoir le courage de se regarder et à affronter justement les saletés ou les dysfonctionnements qu'il va trouver quand il va se regarder.
D'ailleurs, votre chapitre, hein, ça s'intitule La lucidité
Du
du
paria.
paria.
Voilà,
Voilà.
exactement.
Alors, si Kossi Efouy n'est pas un écrivain africain, Yambo Wologem est un écrivain blanc. Lui, Danila Feria, lui, se considère comme un écrivain japonais. Je suis un écrivain japonais, c'est le titre de son 11e livre. Alors, finalement, ces écrivains, question un peu bateau, mais refusent l'assignation identitaire et usent de stratégies pour s'en défaire, c'est ça, c'est. Vous ne pouvez pas m'assigner à une identité.
Exactement, vous ne pouvez pas m'assigner à une identité. Et d'ailleurs, c'est Nancy Huston qui a écrit une romancière canadienne qui cite une autre romancière qui dit, Ying Chen, qui dit, si vous voulez me donner des étiquettes, mais donnez-moi le
Le
plus
plus
possible.
possible.
Alors donc, comme ça, parce que justement, l'écrivain francophone, l'écrivain du Sud, est un écrivain. Il veut être considéré tout simplement comme un écrivain. Et c'est pour cela que s'est battu Yambo Wologem. Donc, il ne voulait pas que que son éditeur soit un édicteur. Alors, donc, il en a lourdement payé le prix. Alors, on sait ce qui lui est arrivé. Et bon, heureusement, il y a comme une espèce de revanche. Donc, son œuvre est réhabilitée. Bon. Ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. Alors donc, effectivement, c'est des écrivains qui refusent, qu'on peut qualifier comme des écrivains du refus. Ils ne veulent pas être chargés de mission. Et la seule mission qu'ils ont, c'est de d'émouvoir le lecteur. C'est de permettre au lecteur de faire croître son intériorité. Et c'est ce à quoi doit servir la littérature. C'est-à-dire à permettre au lecteur d'avoir une croissance intérieure. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est pour cela que justement, et c'est ça qu'ils défendent. Et c'est pour cela que justement, je trouve qu'ils sont au cœur de ce concept de littérature de la traversée.
Alors justement, vous dites hein, dénationaliser,
Oui,
déterritorialiser
c'est un concept, c'est
la
un mot très
littérature.
compliqué.
Peut-être des 3D, j'ai pas le dernier D.
Désir d'altérité.
Désir
D'altérité.
d'altérité. Voilà, c'est ce qui fait la littérature pour vous. Hein, vous dites c'est moins les identités de l'écrivain qui comptent que finalement le geste et l'acte d'écrire. Je m'adresse là au docteur en stylistique finalement, parce que vous venez un peu de dire finalement ces écrivains, voilà, leur but c'est pour parler de débordement. Le débordement c'est par le style. Ce qui compte c'est comment on manie la langue, comment on se construit une langue. Comme vous citez un moment Maryse Condé en disant je n'écris ni en créole
Ni en
ni en
français.
français, j'écris en Maryse
Maryse
Condé.
Condé, ouais, effectivement. Alors, parce qu'il faut que l'écrivain se confronte à la langue. Alors, la question de la langue est fondamentale quand on parle de littérature francophone ou des littératures du Sud. Donc, la question de la langue est fondamentale. Donc, il faut que l'écrivain rentre dans une espèce de corps à corps avec la langue. Donc, pour pouvoir trouver l'écho de sa langue intérieure. Donc, c'est quand il trouve l'écho de sa langue intérieure qu'il va effectivement d'abord la traduire et la mettre à disposition du lecteur. Donc, il faut effectivement que l'écrivain trouve sa langue. Et c'est pour cela que Mabankou dit que on n'écrit pas pour sauver une langue. Mais on écrit pour en créer une. Donc, et ça rentre dans ce que Édouard Glissant dit quand Édouard Glissant parle du langage des langages. Ça dit qu'effectivement, il faut qu'il y ait justement cette espèce de plurilinguisme. Donc, il faut sortir de la tentation du monoglottisme, donc arriver dans le plurilinguisme, et parce que chaque auteur, justement, a quelque chose à nous proposer, a une intériorité à nous proposer, a une langue à nous proposer. La langue de Efouy, ce n'est pas la langue de Kourma. Bon, même si Kofi Efouy a gagné le prix Kourma, alors, mais sa langue n'est pas celle de Kourma. Et la langue de Kourma n'est pas la langue de Wologhem. Et la langue de Wologhem, ce n'est pas celle de Senghor. C'est pas, c'est, donc, et c'est tant mieux. Donc, et Roland Barthes parlait d'une Babel heureuse. Effectivement, il faut que Babel soit, il faut qu'on soit dans une Babel heureuse, parce que justement, chaque écrivain doit nous proposer les échos de sa langue ou de ses langues.
Alors, je n'ai pas relevé hein, tous les aspects, toutes les stratégies hein, que vous analysez dans cet ouvrage, tout ça, notamment sur la question de la filiation, même si on a un peu parlé. Mais pour finir, en dernière question, j'aimerais que vous nous parliez un peu du rôle du titre, le nom du livre, parce que vous y consacrez un chapitre, notamment à partir de Dany Laferrière. Hein, Dany Laferrière excelle hein, dans l'art du titre. Vous parlez notamment de Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, paru en 1985. Alors sur le plan commercial, vous dites commercial racoleur, il n'y a pas mieux, il y a tous les ingrédients. Mais si vous attendez à lire, ce sera pas bon. Hein, vous attendez pas à avoir un manuel.
Exactement.
Est-ce que finalement le titre fait partie, relève de cette stratégie commerciale et littéraire? Voilà, c'est commercial pour attirer le lecteur, mais aussi littéraire dans le sens, ça a un potentiel fictionnel, vous dites, et ça permet, excusez-moi,
Non, c'est bon.
d'entrer dans le livre.
Alors donc, oui, alors depuis que Gérard Genette a fait des synthèses très très pénétrantes sur la question du titre, donc le titre est vraiment très, très important. Je ne sais pas s'il y en a qui n'aiment pas Gérard Genette
Si,
ici.
si.
Alors il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, il cite Furetière qui dit que le titre est le meilleur proxénète du livre.
Voilà.
Alors donc, le titre, il est là pour faire vendre, justement. Et le titre, c'est un sujet de conversation. Donc le titre, ça s'adresse à beaucoup plus de gens. Alors, il faut que tout le monde parle du titre. Et d'ailleurs, Dany Laferrière, dans son roman, Je suis un écrivain japonais, dit qu'on dit de lui qu'il est le plus rapide titreur d'Amérique. Alors donc, alors un peu comme Lucky Luke qui tire plus vite que son nom, donc lui, il titre plus vite qu'il n'écrit ses livres. Alors donc, et parce que le titre, et il dit d'ailleurs qu'on ne sait pas la quantité de bons livres qui passent inaperçus parce qu'ils ont le mauvais titre. Parce que le titre est justement le mot de passe. Alors, je voulais avoir la Wi-Fi ici tout à l'heure et on m'a donné un mot de passe. Il était long comme le bras, mais ça m'a permis de pouvoir accéder. Alors donc le titre, justement, c'est la première. Umberto Eco dit que c'est une clé interprétative, mais le titre doit nous, c'est un code de passage. C'est un peu comme Papa Legba, le dieu du panthéon vaudou, qui est le dieu de la circulation, le dieu du passage. Il faut qu'il vous chuchote le code et puis il vous laisse passer. Donc le titre doit justement être quelque chose qui appelle. Alors, donc il doit y avoir une espèce de sex appeal au titre. Alors donc il faut que le titre soit suffisamment évocateur pour. Et il ne faut pas qu'il en dise trop, justement. Alors donc, il ne faut pas que ça soit comme une recette, et comme un menu. Alors donc, il ne faut pas qu'il en dise trop. Il faut qu'il soit assez mystérieux pour vous donner envie de rentrer. Alors, et donc, c'est ça. Et c'est pour ça que vraiment, c'est le meilleur proxénète. C'est lui qui fait vendre le livre, justement, le titre. Et le titre, justement, et il peut créer et même de la complicité dans une communauté de lecteurs. Parce que comme c'est un sujet de conversation, donc les gens en parlent. Un peu comme dans l'émission de Thierry Ardisson, qui a
Tout le
été
monde en parle.
exportée
Mais qui
au
était au
Québec.
Canada, oui,
Ouais,
c'est
c'est
ça.
ça. Tout le monde en parle. Faut que tout le monde en parle. Et donc, et Dany Laferrière a eu cette idée, que je trouve, à mon avis, très intéressante, de faire du titre un objet de fiction, un récit, une matière à récit. Donc, parce que dans Je suis un écrivain japonais, tout est dans le titre. Et tout le roman tourne autour du titre. Il n'y a rien d'autre. Donc, pourquoi est-ce il se définit écrivain japonais? Alors, donc,
De quelle
ça,
légitimité?
voilà quelle est sa légitimité. Alors, et donc, du coup, tout le roman tourne autour de cela. Et donc, il a eu l'idée de faire du titre la matière même de son intrigue. Alors, et donc, le titre n'est pas seulement le nom qu'on va donner à un livre, mais il a aussi des potentialités effectivement romanesques, ou en termes de création romanesque. Donc le titre, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la première chose que le lecteur va voir de toute façon. Donc, il y a la page couverture, il y a le titre. Et donc, si le titre n'est pas intéressant, il peut rebuter le lecteur. Il peut se détourner. Et comme dit si bien Daniel Laferrière, vous ne savez pas le nombre de très bons livres qui passent inaperçus parce qu'ils ont de très mauvais titres.
Le titre comme traversée.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Désiré Niélard. On a bien compris un peu voilà comment votre livre revient sur toutes ces stratégies des auteurs africains, principalement, on va le dire, hein, voire, enfin, parce que c'est francophone, mais à chaque fois vous précisez francophone.
Oui, j'essaie, oui, parce que j'aime bien m'occuper des Africains.
Voilà. Moi aussi. Pardon. Mais voilà, comment ils utilisent de stratégies pour se sortir de ce carcan, voilà, de l'exotisme, de la place sur laquelle on les a assignés. Merci beaucoup pour cette présentation.